Bonjour Ludo.
Bonjour David, salut à tous.
Alors aujourd'hui Ludo, tu nous parles de ce que l'on voit depuis plus d'une dizaine de jours, des sacs blancs à l'entrée des champs ou de ces tracteurs et engins chenillés pour ne pas abîmer les parcelles avec leur semoir d'engrais. Ils vont épandre les billes blanches, source de nourriture et de rendement éclair pour les plantes. Aujourd'hui tu nous parles de...
Je vous parle d'azote, hein. Les billes blanches ce sont de l'azote et je vous parlais plus particulièrement des engrais azotés. Donc l'azote, c'est aussi indispensable que l'oxygène pour la vie.
À la différence qu'il existe sous forme organique et minérale ?
Oui, alors organique, hein, c'est grâce au fumier présent dans le fumier, par exemple, ou les légumineuses hein, qui restituent l'azote accumulé dans leur système végétatif. Donc l'organique, c'est une forme stable, non lessivable, qui devient minérable et assimilable sous forme de nitrate. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Et pour les formes minérales synthétiques, tout est né à partir du procédé Haber-Bosch.
Ah, donc petit rappel historique, si tu veux bien, pour que nous comprenions mieux.
On essaie de faire simple. Donc on commence en 1909. Hein. Le chimiste Fritz Haber trouve un procédé de fabrication en fait de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Donc ça, c'est la base nécessaire pour élaborer l'ammonitrate, les billes blanches. Il s'associe à l'ingénieur allemand aussi, Karl Bosch, de la société BASF. En fait, il conçoit une chaîne de fabrication industrielle sûre. Ensuite, la deuxième étape, c'est 1913, avec la construction d'une usine de fabrication d'ammonitrate, inaugurée en Allemagne, donc siège historique de BASF. L'objectif, c'est de produire des engrais azotés à vocation agricole. La Première Guerre mondiale arrive, ça bouscule pas mal les choses, et le procédé Haber-Bosch, en fait, est utilisé pour faire essentiellement le TNT et de la poudre à canon. Fin de la guerre, 1919, là fait partie des négociations d'armistice. Donc en sous-main, c'est secret, notamment directement avec Karl Bosch. L'objectif est de récupérer les brevets et les usines. Ensuite, pour diffuser à grande échelle la technologie pour le monde agricole. Il y aura véritablement un grand essor, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, donc 1945, où le procédé sera un des piliers de la révolution agricole. Donc il permettra, en fait, de dissocier d'une part les animaux de la culture des plantes. Donc les grandes cultures n'auront plus besoin de fumier pour fertiliser les terres, grâce à l'invention de l'engrais synthétique. Pour notre bocage, hein, nous sommes une terre d'élevage, mais la plaine toircaise ou la plaine niortaise, par exemple, si elles ont pu exister, hein, techniquement parlant, je dirais, c'est bien grâce au procédé Haber-Bosch et à l'invention de l'azote minéral.
Alors les usines servaient à produire le TNT pendant la Première Guerre mondiale. C'est entre autres pour cela que les engrais restent dangereux et sont source de drames nationaux ?
Oui, alors c'est le nitrate d'ammonium hein, qui est à l'origine d'explosions, mais vous aurez tous en souvenir, ou peut-être pas, mais le cargo Océan Liberty hein, à Brest en 1947, ou plus récemment hein, l'usine AZF qui a explosé à Toulouse en 2001, et la double explosion hein, au port de Beyrouth, au Liban, en 2020. Donc tout ça, ça fait à chaque fois des dizaines de morts.
Alors quels sont les intérêts de ces engrais qui ont une histoire tumultueuse ? C'est moins qu'on puisse dire.
Ouais, bah le premier connu de tous, hein, clairement, c'est augmenter le rendement des cultures et donc la rentabilité. Donc ils ont aidé aussi, hein, notamment dans l'après-guerre, à nourrir la population. On a augmenté le rendement pour nourrir tout le monde. Donc ils sont un élément clé dans la révolution agricole.
Alors aujourd'hui, qu'en est-il, Ludo ? Le monde agricole se pose beaucoup de questions, il me semble, entre les différentes techniques de culture, loin du modèle unique d'après-guerre.
Oui, bah alors en fait, ça a commencé dès les années 80, les questions. En Bretagne notamment, on a vu des limites apparaître, clairement liées aux excès qui ont été faits. On maîtrisait mal la technique. Donc la directive nitrate, hein, qui date de 1991, est née de ces excès. Elle est révisée régulièrement et elle contraint les exploitations, en fait, pour limiter les effets néfastes des excès d'azote, lessivables, donc minérales. Les quantités épandables sont limitées, les zones sont délimitées aussi, les zones d'épandage, et les périodes également. Et les documents sont à mettre à jour annuellement, c'est obligatoire, avec des contrôles réalisés auprès des agriculteurs.
Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est bien encadré et les agriculteurs sont devenus responsables de leurs pratiques ?
Oui, beaucoup mieux, hein, exactement. Ils ont appris, ils ont compris aussi et ils appliquent au mieux ce qui est de bon sens sur leurs exploitations, en ce qui concerne les engrais. Donc en fait, les techniques et la technologie aident également. Hein. On a un épandage où l'on pèse tout ce que l'on met aujourd'hui, où la dose est gérée selon l'avancement du tracteur. On est équipé de GPS hein, pour pas mettre deux fois au même endroit, par exemple, et respecter les distances. Il y a des outils de modulation de dose qu'on appelle. On adapte selon les besoins des cultures et la couleur aussi des plantes. La dose s'adapte automatiquement. Deuxième petite chose assez exceptionnelle cette année, c'est que le prix des engrais a explosé. Il a été multiplié par 2,5. Et cela va accentuer le fait que les agriculteurs vont faire énormément attention à leurs achats et à leurs épandages cette année.
Voilà. Alors question Ludo, une agriculture sans engrais azotés, est-ce que cela existe ?
Oui, ça existe, et ça c'est plutôt intéressant. On fait ce qu'on appelle des cultures associées en fait. Donc des espèces différentes, par exemple une céréale et une légumineuse. Donc vous pourrez mettre un blé, une févrole ou un régras et un trèfle par exemple. Donc ça c'est les légumineuses qui apportent l'azote à la graminée. Autre chose, c'est que l'agriculture biologique aujourd'hui est la seule qui exclut totalement les engrais azotés de synthèse. Donc en bio, on dispose de sources azotées, je dirais, de manière organique. Donc il y a les résidus récoltes, on va cultiver une plante pour la remettre au sol, ou les déjections animales, donc fumier, lisier essentiellement. Et celui aussi fixé par les légumineuses.
Et Ludo, on n'oublie pas nos amis jardiniers, on leur dit de faire attention aussi aux quantités qu'ils peuvent mettre dans leur jardin. On peut aussi polluer à petite échelle.
Voilà, faites attention, la poignée souvent ramenée à l'hectare, en fait vous en mettez beaucoup plus que les agriculteurs. Faites attention, on a tous un rôle responsable à jouer là-dessus.
Merci Ludo, à la semaine
prochaine. Bonne journée, salut.